Voilà, alors donc on va étudier le chapitre 6 de l'exhortation apostolique du pape François. Alors c'est numéro 199 et suivant. Je dis plutôt les numéros parce que selon les éditions, ce n'est pas les mêmes pages, donc c'est numéro 199 normalement. Ça va? Alors, dans ce sixième chapitre, le pape aborde plusieurs choses. Alors, j'ai divisé en 8 points. Le premier, c'est plutôt général, annoncer l'évangile de la famille aujourd'hui, du numéro 204. Après, il y a une partie relativement longue sur préparer les fiancés au mariage. Alors là, ça va du numéro 205 à 216 à peu près. Après, c'est plutôt sur les premières années de la vie conjugale, l'accompagnement, les ressources, etc. Donc c'est assez long aussi, du numéro 217 au numéro 230. Un autre point qui suit, c'est à propos des crises. Alors, mais ça ne vous concerne pas, donc. Du numéro 231 au numéro 238. Après, un autre point sur les vieilles blessures. Alors ça, c'est un peu plus court, c'est 239-240. Un autre point encore. Accompagner après les ruptures et les divorces, 241 à 246. Après certaines situations complexes, 247 à 252. Et après, quand la mort transfère de son aiguillon, 253 à 258. Voilà, donc ça fait 8 parties au total, si j'ai bien compté. Voilà. Alors, donc, j'en arrive tout de suite au numéro 199 qui a introduit tout ce chapitre. Donc, le pape invite à chercher de nouveaux chemins pastoraux. Et en même temps, donc, il en donne quelques-uns, mais il a bien conscience qu'il les donne de manière un peu générale. Mais après, c'est au niveau de chaque diocèse, au niveau de prendre des initiatives. Alors, d'une part, parce que les situations, par exemple, ici ou en Afrique, ce n'est pas la même chose, les problématiques sont différentes, donc on ne peut pas donner des orientations qui valent pour toutes... Enfin, pour tous. Il y en a qui peuvent valoir pour tous, mais après, il faut s'adapter plus concrètement dans chaque lieu. Je pense qu'il dit, par exemple, pour la préparation au mariage, je pense qu'il y a eu des gros, gros progrès faits en France, même s'il y a toujours à progresser. Il y a d'autres pays où il y a beaucoup plus à acheminer. Après, les problématiques de divorce ne sont pas du tout les mêmes en Europe et puis en Afrique. Voilà. Ou alors la polygamie et tout ça est un sujet quand même plus compliqué en Afrique qu'en France, a priori. Voilà. Et puis en même temps, pour faire appel à la créativité de chacun, parce que, alors après, ça sera à vous de vous lancer peut-être dans telle ou telle chose pour les familles. On peut avoir mille initiatives qui vont dans le bon sens. Voilà. Alors donc après, au numéro 200-201, c'est annoncer l'évangile de la famille, 200 à 204 même. Et la première chose qu'il dit, c'est d'abord aux familles d'être des témoins. Alors bien sûr, les prêtres auront aussi leur place, mais... Alors vous connaissez cette parole assez connue de Paul VI. Dans Evangelii Nuntiandi, il l'avait dit avant au Conseil des laïcs. L'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres. ou s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que pour la meilleure manière de parler de la famille, c'est déjà ça, si notre propre famille témoigne d'une joie dans les difficultés aussi, et de voilà, c'est certainement ce qui est le plus efficace que de discuter au niveau des idées. Ça nous est déjà arrivé ici, je me rappelle d'un monsieur, il y a belle lurette, qui était SDF. Enfin, il y a tout type de personnes SDF. Mais lui, donc, en arrivant ici, il était tombé sur un couple qui voyait, qui s'aimait, tout ça. Alors, ça lui a renvoyé beaucoup de choses. Et du coup, mais dans le bon sens, ça lui a dit, ah ben, ça lui il s'est dit, ah ben oui, non, mais c'est ça que je voudrais vivre. C'est vraiment ça que j'aimerais vivre, etc. Donc, voilà. Alors, c'est votre témoignage pour ça est important. Et est important aussi parce que ça montre que c'est possible. Parce qu'il y a des gens, oui, c'est ça que je voudrais vivre, mais pff, c'est impossible à vivre, la fidélité et tout ça. Mais de le voir incarné dans des gens, alors célébrer par exemple des anniversaires de 50 ans, 60 ans, 70 ans de mariage, ben, voilà, ça montre que c'est possible, il y a des gens qui y arrivent. C'est pas juste pour les extraterrestres ou pour d'autres époques, ça arrive encore. Oui, mais bon, il faut montrer, ça montre déjà que c'est possible quand même, malgré tout. Après, les gens, ils peuvent toujours râler et tout ça, mais ça montre qu'il y en a qui y arrivent. Donc, c'est retenons au moins ça. Même s'il y a des, si la barre est haute, et puis. Mais après, ça peut être de témoigner aussi les moyens, bon, on y viendra. Qu'est-ce qui a aidé aussi et, pas simplement dire, voilà, on y est arrivé, mais. Et savoir aussi témoigner des difficultés que vous avez eues. Et de la manière dont vous avez pu surmonter ces difficultés, c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas de dire simplement on y est arrivé, c'est de dire aussi, voilà, à certains moments, c'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles, mais voilà, dans ces moments un peu compliqués, qu'est-ce qui m'a aidé à traverser les moments difficiles? Du coup, on se monte, on ne se manifeste pas non plus comme quelqu'un de surdoué et tout ça, où il n'y avait aucune difficulté. Si! Mais quelquefois, on a trop de pudeur pour dire aussi les difficultés qu'on a pu traverser. Alors bon, après, on n'est pas obligé de tout déballer sur la place publique, hein, c'est évident. Mais en même temps, dans le témoignage, parce que toutes les familles traversent des choses difficiles d'un moment ou un autre, d'une façon ou d'une autre. Ça peut être pas seulement au niveau de la fidélité en tant que telle, d'être attiré par quelqu'un d'autre, mais d'avoir un enfant qui ne va pas bien, de l'accompagner, etc. Il y a d'autres au niveau de la santé, d'autres... Bon. Après, il y a au niveau des parents, des beaux-parents, ou enfin, voilà. Il y a des difficultés multiples et variées, mais voilà. Chacun a ses propres difficultés, mais voilà ce qui nous a aidés aussi pour traverser. Alors donc dans ce numéro 200, il parle d'une part des laïcs, mais il parle aussi des pasteurs. Et pour les pasteurs... Il attend notamment qu'ils offrent des motivations. Alors, on n'est pas encore au carême, mais quelquefois, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui fait qu'on est motivé pour faire quelque chose? Et le pape, plutôt que de faire peur ou tout ça, il attend de nous qu'on aide les gens à être motivés aussi pour avoir une famille qui soit belle. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider pour la motivation? C'est déjà d'aider la personne à choisir par elle-même. On ne conduit pas les gens par la peur ou simplement en présentant des normes, voilà ce qu'il faut faire, mais en montrant ce qui est désirable, un bien à accomplir qui est désirable et qui c'est plutôt comme ça qu'on conduit les gens. On montre aussi, on nourrit la motivation en montrant que c'est pas au-dessus de nos forces. Et aussi en donnant un soutien à l'extérieur. Quand on est tout seul, c'est beaucoup plus difficile de tenir une résolution quand on est tout seul que quand on est à plusieurs, à se soutenir mutuellement, à s'épauler mutuellement. C'est comme quand on marche. Bon, quand on est en groupe, on voit moins difficilement les kilomètres passés que quand on est tout seul. Voilà. Voilà. Mais c'est pareil dans notre vie. Voilà. Et du coup... Le pape insiste aussi pour un autre élément, ce n'est pas uniquement au niveau des motivations, mais au niveau du côté réaliste, concret. Il faut avoir un objectif clair, réaliste, concret. Et il insiste pour que les... voilà ce qu'il dit, je crois. Il ne faut pas s'en tenir à une annonce purement théorique et détachée des problèmes réels des gens. Parce que sinon, c'est quelque chose qu'on plaque. Dimanche dernier, ce dimanche, on s'est souvenu de Père André, qui a été supérieur de la communauté pendant 25 ans, 30 ans, supérieur général, qui nous a beaucoup donné. Et alors, il y a une religieuse qui témoignait, et elle disait, mais... Alors, il a aidé beaucoup, beaucoup de religieux, religieuses au moment du concile, où, voilà, ça tanguait, et il y en a plein qui sautaient par-dessus bord. Mais, du coup, j'avais trouvé très beau ce qu'elle avait dit. Elle avait dit, mais il ne donnait jamais de réponse toute faite. Il écoutait d'abord où étaient mes difficultés, et après, il me donnait une réponse mais qui me correspondait à moi. Pas une réponse qu'il aurait trouvée dans les livres, ou voilà. Et ça, c'est grosso modo ce que veut dire le pape François. Il ne faut pas une annonce purement théorique et détachée des problèmes réels des gens. Alors ça, c'est difficile parce que quelquefois, on est un petit peu déconcerté. On ne sait pas très bien comment dire aux gens. On se sent un peu démuni pour leur répondre. Mais en même temps, c'est aussi là que notre réponse répond à une question. Mais ce n'est pas juste un dialogue de sourds. On donne des principes, mais qui ne correspondent pas à ce dont les gens ont besoin. Autre élément que le pape donne encore dans ses numéros, c'est de dire de ne pas avoir peur de présenter la vision de Dieu sur l'amour humain et la famille. Alors c'est vrai que dans les médias, assez fréquemment, on présente ça comme conservateur. Alors conservateur, dans ce sens-là, ça a une tonalité négative, c'est plutôt ringard, etc. Alors que non, il ne faut pas avoir honte, même si on nous renvoie cette image en disant « mais c'est ringard, voilà, votre manière de vivre ». Au fond de leur cœur, les gens savent qu'ils aspirent à une famille unie et puis où on s'aime, et voilà. Mais on a tellement un discours autre qui nous vient, qu'ils enfoncent le clou, que finalement on se dit, bah, finalement il y a plusieurs modèles de famille, tout ça. Non, pour Dieu, il n'y a pas 50 modèles de famille. Le pape qui est, alors on le verra un peu plus loin, mais qui à la fois est très ouvert et très compréhensif vis-à-vis des personnes qui ont une orientation homosexuelle, on va dire ça comme ça, mais en même temps il dit, mais bon, il n'y a pas de mariage homosexuel, ça n'existe pas, il n'y a pas 50 formes de mariage. Après, bon, il y a des situations difficiles, bon, on accompagne les gens comme on peut, mais dans le plan de Dieu, c'est un papa, une maman et des enfants, il n'y a pas... Il ne faut pas se torturer l'esprit en disant « Ah ben non, il pourrait y avoir... » Non, il n'y a pas deux papas ou deux mamans. Non, non, c'est... Et pas avoir peur de dire « Mais non... » Alors c'est vrai que maintenant, on se ferait bientôt mettre en prison en disant des évidences ou avoir des procès. Mais en même temps, de redire des choses qui... Il ne faut pas avoir peur et de se laisser impressionner par des gens qui nous disent des aberrations. Donc voilà. Toujours dans ces paragraphes, je suis toujours dans les numéros 200-201. Le pape invite pas seulement à agir à aider les gens, mais aussi à agir sur les circonstances extérieures. Alors bien sûr, au niveau spirituel, il faut aider, accompagner les gens, mais aussi agir au niveau des circonstances extérieures. Voilà ce qu'il dit. Dénoncer avec franchise les conditionnements culturels, socio-économiques, comme la place excessive donnée à la logique du marché, qui empêche une vie familiale authentique, entraînant des discriminations, la pauvreté, des exclusions et la violence. Et là, le pape ne se contente pas de dénoncer de l'extérieur et puis de critiquer. Le but, ce n'est pas de critiquer, bien sûr. C'est aussi il incite les laïcs à collaborer avec les structures, comment il dit ça, développer un dialogue et une coopération avec les structures sociales. Voilà. Il ne s'agit pas simplement pour l'Église de donner un enseignement spirituel et moral. Alors, l'Église, elle ne doit pas faire de la politique en tant que telle, mais elle doit interpeller et peut-être donner des initiatives. Je voyais là une initiative bon, qui n'est pas née du monde politique, mais qui fait du bien, les écoles dans Espérance banlieue. Alors ça, c'est... Mais c'est des choses qui vont vraiment... qui aident, qui vont dans le bon sens. Mais là, on n'agit pas simplement au niveau des personnes, mais au niveau des structures, quelque part. Au niveau de... Ou quand on défend le dimanche, c'est pas simplement pour que les gens puissent aller à la messe le dimanche. Si l'Église défend le dimanche, c'est plus large que ça. C'est parce que pour la personne humaine, c'est bien de pouvoir s'arrêter aussi et d'avoir un temps à vivre en famille aussi, qu'on ne soit pas toujours en train de courir et sans jamais se voir, parce qu'on voit que la famille, c'est un peu compliqué si on ne se voit jamais. Voilà. Donc, il y a une double manière d'agir. Il y a une manière d'agir sur les personnes en les accompagnant, mais aussi à un niveau plus social, au niveau communautaire, d'agir pour faciliter la vie des gens, pour que leur vie de famille soit quand même plus facile. Voilà. J'en arrive au numéro 202 à 204. Et là, donc, le pape, dans ses numéros, parle d'une formation. Alors, d'une formation pour les prêtres, pour les séminaristes et pour les laïcs. Il y a trois. Alors, bon, c'est clair que les prêtres ont besoin de se former aux problématiques qui touchent davantage la famille. Après, on demande beaucoup aux prêtres. Hein. Les pauvres, ils ne peuvent pas être non plus polyvalents. Alors, c'est vrai qu'à une certaine époque, quand il y avait plus de prêtres, chacun pouvait avoir un peu plus sa spécialité. Là, le pauvre prêtre, il est dans une paroisse avec je ne sais pas combien de clochers. Il doit s'occuper des malades, des familles. Alors, bon, il faut... Donc, on peut avoir aussi un peu d'indulgence. De ce point de vue-là, nous, on a plus de chance au niveau de la communauté. On peut plus facilement... sélectionné selon notre charisme, donc puisqu'on est appelé pour les jeunes et les familles. Alors moi, j'ai eu de la chance, j'ai pu passer une année à Rome. C'était pas seulement pour manger des glaces, hein, je vous rassure. mais c'était à l'Institut Jean-Paul II pour la famille. Donc ça m'a au moins aidé, même si là, je suis pas du tout un spécialiste en la question, dans le domaine. Mais voilà. Et puis il y a Père Pierre Marilia qui suit une formation, mais un peu différente pour aider les couples qui traversent des moments difficiles. Donc voilà, et donc il y a une formation. Voilà, et je pense qu'on a besoin de se former aussi pour mieux aider. Voilà. Alors, donc il parle des prêtres, il parle aussi des séminaristes, il en parle encore plus que des prêtres. Mais quand il parle des séminaristes, le pape François, quelque part... Il parle plus de la formation personnelle des séminaristes pour qu'ils s'épanouissent psychologiquement et affectivement et qu'ils aient un certain équilibre psychique. C'est plus ça, quand il parle des séminaristes, c'est pas tellement bien sûr qu'ils doivent savoir ce que c'est que le mariage, etc. Ils doivent avoir une... Mais davantage qu'il insiste, c'est... qu'ils aient un certain équilibre. Je vois... En Argentine, là où nous nous trouvons, ça a été très douloureux dans le diocèse parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de prêtres qui ont quitté le ministère, de jeunes prêtres. Alors, ça arrive aussi en France, hein, on n'a pas de leçons à donner, mais une des difficultés qui se retrouvait là-bas, donc le pape, quand il parle pour la France, mais aussi pour l'Argentine, pour tout. Une des difficultés, c'est que les séminaristes, quelquefois, ils étaient au petit séminaire, ils passaient au grand séminaire, mais un peu en serre chaude. Et avec des principes très beaux, ils avaient la doctrine, il n'y avait rien à redire. Mais en même temps, quand ils arrivent, pour les relations avec les gens, quand ils arrivaient en paroisse, ben, c'était plus compliqué, c'était pas comme dans les livres. Et les relations avec les familles, avec les jeunes filles, c'était pas l'idéal à ce moment-là, la collaboration. Alors c'est plus clérical aussi comme manière de procéder. Mais du coup, ça les rendait beaucoup plus vulnérables après. Alors quand il parle de ça, je ne pense pas qu'il ait à l'esprit ce diocèse en particulier d'Argentine, mais je pense que... En tout cas, il y a un point d'attention pour former les séminaristes. Après, même si on forme de la meilleure manière un séminariste, c'est pas pour autant, c'est comme tous, on est vulnérable, et puis voilà, donc c'est jamais gagné une fois pour toutes. Mais en même temps, il y a des... pas, en tout cas, pas les former dans une serre chaude, sans lien avec, avec des familles. Du coup, dans ce paragraphe 203, plutôt, il insiste pour que les familles aient une... interviennent d'une certaine manière dans la formation des séminaristes aussi. En tout cas, qu'ils soient en contact avec des familles bien concrètes, voilà, qu'ils soient bien en contact avec la réalité des familles et ce qu'elles peuvent vivre de difficile aussi. Voilà. Et puis, il parle des laïcs. L'importance de la formation des laïcs. Mais je dirais aussi, alors il y a deux choses. C'est vrai que c'est important de se former si on prépare au mariage. Bon, déjà, il faut se lancer, je pense. Il ne faut pas attendre d'avoir formation Bac plus 10 pour commencer à faire de la préparation au mariage, sinon il n'y a plus personne qui s'en occupe. Mais en même temps, au fur et à mesure où on prépare au mariage, c'est vrai, de ne pas papillonner et peut-être s'y investir quelques années, bah, du coup, on comprend mieux les choses, on se forme sur certains points plus particuliers parce qu'on sent que, voilà, on n'est pas tout à fait au point sur tel ou tel point. Donc ça, je trouve que c'est un défi et c'est intéressant aussi. Mais il y a un autre aspect aussi pour la... Parce que les laïcs ont souvent des formations excellentes dans tel ou tel domaine. Ça peut être la psychologie, ça peut être bien des choses. Et du coup, de mettre cette compétence au service des autres. Parce que je pense qu'il y a là quelque chose de très précieux. Hein. C'est, l'Église, c'est un corps et chacun a des... avec des membres divers et avec des compétences diverses, des talents divers, des charismes divers. Et je pense que c'est important d'être attentif aussi aux charismes. Quels sont les charismes que Dieu m'a donnés? Mais les charismes, c'est jamais donné pour nous-mêmes. C'est donné pour la construction de la communauté. Mais alors, il y a peut-être quelque chose que je peux donner. Mon curé n'est peut-être pas très formé à la psychologie, mais pour reprendre cet exemple. Mais bon, moi, j'ai peut-être quelque chose que je peux donner ou bon, c'est l'exemple qui me vient à l'esprit, mais il y a plein de choses. Voilà. Donc ça, c'est les numéros 200 à 204. Maintenant, j'entre dans ce qui concerne la préparation des fiancés au mariage. Guider les fiancés sur le chemin de la préparation au mariage. Alors là, le pape s'y arrête quand même assez longuement. Du numéro 205 à 216, donc ça fait pas mal. Alors, je retiens seulement quelques éléments. Donc déjà dans la préparation au mariage, il y a une préparation lointaine et une préparation immédiate. Déjà la préparation lointaine, déjà vos petits-enfants, quand vous... par votre témoignage d'abord, et puis parce que vous pouvez leur dire du mariage, de la sexualité, etc. Vous les préparez déjà, même si c'est de façon lointaine. Ils n'ont encore personne en vue. Mais c'est déjà une préparation essentielle, la préparation lointaine. Tout à fait. Et puis après, il y a la préparation plus immédiate, bien sûr. Et dans la préparation lointaine, le pape commence par parler des vertus. Alors, je pense que j'en ai déjà parlé à diverses reprises, mais je prends un exemple que je prends souvent, mais avec les novices, quand les novices arrivent ici, selon qu'ils ont reçu une formation humaine dans leur famille ou pas, ben, c'est pas la même chose. Il y avait un noviciat, c'était trois Argentins, assez différents. Il y en a un qui s'était élevé un peu lui-même dans un bidonville, voilà. Un autre qui était avocat, qui avait été à Buenos Aires, donc qui avait appris toutes les bonnes manières, etc. Et puis un autre, bon, une famille bon, qui avait pas, c'était pas forcément le calme plat dans sa famille, mais bon, je prends les deux extrêmes, l'avocat et celui qui était dans un bidonville. Alors il y en a un qui arrivait, il disait merci, s'il te plaît, tout. L'autre, il arrive à table, il sert et puis mange, sans faire attention aux autres, voilà. Mais ça, c'était des vertus qui aident quand même à vivre ensemble après. alors, ça fait partie de la préparation lointaine aussi. quand on a le souci de l'autre, etc. Mais ça, c'est depuis qu'on est petit qu'on apprend des choses comme ça, à dialoguer. Dialogue, ça s'apprend pas seulement au moment où on pense au mariage, mais voilà, les concessions qu'on peut se faire, tout ça, ça c'est des tas de vertus qu'on apprend déjà, et ça fait partie de la préparation lointaine. Mais il y a une vertu sur laquelle il insiste plus particulièrement, plus directement reliée au mariage, c'est la vertu de la chasteté. Alors, cette vertu, et c'est pas simple d'intégrer notre sexualité, on sait, c'est pas, ça va pas de soi. Il me semble que c'est toujours important de bien voir la différence entre la chasteté et la pureté. C'est pas du tout la même chose. Le petit bébé, il est peut-être pur, dans le sens où, bon, on met un petit bébé garçon à côté d'un petit bébé fille, et il se passe pas beaucoup de choses. Mais il n'est pas chaste pour autant, il n'est pas du tout chaste le bébé, il n'a pas de pulsion à gérer, tout ça à son âge, donc c'est pas trop compliqué, hein. Après, justement, la question, l'enjeu, c'est d'apprendre à gérer ces mouvements qui nous viennent, et puis voilà, que ça ne parte pas dans tous les sens, n'importe comment. Alors, c'est là que ça s'apprend la chasteté, on ne l'a pas en naissant la chasteté. C'est quelque chose qui s'apprend. Le bébé, il a zéro chasteté. C'est quelque chose qu'on apprend. Et c'est comme tout apprentissage. Il peut y avoir, c'est pas forcément. On tâtonne un peu pour avoir la bonne note quelque part. Il ne s'agit pas pour une femme de fuir les hommes. C'est pas ça. C'est d'avoir une relation harmonieuse. Voilà. Alors, mais donc ça fait partie de la formation lointaine du mariage. Alors, dans notre monde, il y a le meilleur et le pire. Le pire, c'est vrai que même les petits-enfants, ils peuvent avoir accès à des images, à des contenus voilà, qui sont pas du tout pour eux et qui sont même pas pour des gens sensés. Mais en même temps, alors là, c'est plus le pire. Et puis le meilleur, c'est que ben, on parle quand même beaucoup plus volontiers aujourd'hui de la sexualité qu'on en parlait il y a 50 ans. Alors, il y a des parents qui le faisaient déjà il y a 50 ans, mais souvent ils étaient beaucoup moins à l'aise et ils avaient beaucoup moins d'instruments. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'instruments. Alors, je fais une petite pub pour les AFC au passage. Bon, il y a beaucoup de choses qui existent, hein, donc on voit la variété des apports qu'on peut donner pour la famille au sens large. Donc, les AFC ont élaboré en partenariat avec Leclerc et Teen Star des vidéos. Alors, il y a selon les âges, hein, il y a pour des petits-enfants, il y a aussi pour les adolescents. Alors, la vidéo, elle fait pas tout, mais ça donne au moins un point d'accroche pour pouvoir en parler avec les enfants et les adolescents. Bon, c'est une des initiatives parmi tant d'autres, c'est parce que elle est assez récente, je crois que c'est au mois de novembre qu'ils ont fait paraître pour les adolescents. Mais du coup, c'est des choses, si vous voulez des références, je pourrais. Alors, ben, peut-être pour les petits, ça s'appelle. Les petits, c'est Lucas et Léa. Et pour les ados, c'est Hugo et Lucie. Alors, vous tapez ça. Et je pense que vous arrivez à tomber sur. Vous tapez ça, AFC, et puis sur Google, et puis vous devez trouver. Mais si vous ne trouvez pas, je peux vous donner les coordonnées. Mais voilà, ça. À la fois, on a le pire actuellement, mais aussi on a le meilleur avec des instruments bons aussi qui aident à parler des choses. Au numéro 207, le pape dit une chose à laquelle je n'avais pas pensé du tout. Il dit que accompagner le cheminement d'amour des fiancés est un bien pour les communautés chrétiennes. Pourquoi? Parce qu'en s'engageant dans la sincérité à grandir dans l'amour et dans le don réciproque, ils peuvent contribuer à rénover le tissu même de tout le corps ecclésial. Ils peuvent aider à faire grandir dans l'amitié et dans la fraternité la communauté chrétienne dont ils font partie. C'est vrai que les fiancés qui sont tout feu, tout flamme, là, ils peuvent nous. Voilà, nous, quelquefois, bon, on s'assoit un peu, on est un peu. Voilà, mais ils ont un idéal, et c'est beau. C'est beau. Donc, ça, les accompagner. Ça nous aide d'ailleurs, c'est pour autre chose, mais accompagner des convertis qui se préparent au baptême, ben ça nous stimule parce qu'on voit, ils regardent tout avec des yeux neufs, ils ont un certain sens de l'absolu, ils sont pas voilà. Mais de la même manière, donc le pape François dit, ben ça vaut la peine de s'investir auprès des fiancés, ça peut peut-être vous engager auprès des jeunes fiancés, ça peut vous relancer aussi dans votre amour conjugal en disant, ah ben oui, il ne faut pas qu'on s'endorme. Après, dans la manière concrète d'organiser la préparation immédiate au mariage, alors là, il faut s'adapter. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup tout au long des pages du pape François, le fait d'essayer de s'adapter au maximum, parce que c'est compliqué, les situations sont tellement diverses, alors on ne peut pas avoir un parcours type, et puis à chaque fois il faut s'adapter. Alors c'est un côté un peu fatigant quelquefois, parce qu'on aimerait avoir des cours tout faits, et puis voilà, mais non, ça ne marche pas comme ça. Du coup, Alors, je vais peut-être vous raconter une petite histoire avant que vous ne dormiez complètement. Une petite histoire pour illustrer le fait que, grosso modo, le pape dit il ne faut pas simplement donner la quantité, plein de connaissances aux fiancés. Il faut veiller sur la qualité de ce que vous donnez, aussi sur la manière dont vous le présentez, que ça soit de façon attractive, cordiale. Donc, pas simplement, c'est comme pour le catéchisme, c'est toujours difficile, il faut aussi donner un contenu, mais en même temps, il faut que les gens en perçoivent quelque chose du contenu, sinon c'est compliqué. Alors bon, on tâtonne toujours, il n'y a pas de solution miracle, mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'essayer de tenir les deux bouts de la chaîne, vraiment donner un contenu, et puis en même temps, que les gens, ça leur parle. Voilà, sinon. Alors, pour privilégier la qualité sur la quantité, un jour on avait invité notre curé de Rome, il y a pas mal d'années, pour dîner, et puis après on avait terminé, on avait fait une belle tarte tatin, tout ça, bon, elle était bonne. Voilà, et puis après on lui propose de se resservir, et il nous dit, oh non, la quantité tue la qualité. Alors du coup on n'a pas osé se resservir devant lui, mais sitôt qu'il est ressorti, disons, on a terminé, hein. Quand même. Mais voilà, autre image, alors ça c'est très imagé, c'est un monsieur, un petit peu original, qui venait à la messe ici, et puis pendant l'homélie, il sortait des pièces qu'il mettait devant lui. Et si l'homélie était trop longue, il renlevait des pièces. Alors, c'est de façon imagée, je trouve ça très bon. Parce que du coup, quelquefois, à force de vouloir trop en dire, on fait plus mal. Bon, mais là encore, il n'y a pas de solution miracle. Il y a des gens qui peuvent parler des heures, on les écoute. Saint Augustin, il parlait pendant des heures. Hein. Ces homélies, ce n'était pas 8 minutes. Hein. Mais bon, après, tout le monde n'a pas les mêmes talents, et puis voilà. Mais en même temps, d'avoir ce... Voilà. Alors là, on voit que c'est un peu un art, hein. Il n'y a pas de solution toute faite, mais voilà, on essaie de faire comme on peut. Mais avoir ça, essayer de tenir les deux, essayer vraiment de donner un contenu, mais avec un emballage et de manière à ce que les gens en retiennent quelque chose, voilà. Après, on fait comme on peut. Voilà. Et ce que dit le pape, de toute façon, ça reste qu'une initiation, le moment des fiançailles. On ne peut pas tout dire, et puis il y a des choses, ça ne leur parle pas encore, parce qu'en vivant ensemble, il y a des choses, ils seront capables de l'écouter, de l'entendre, mais là, peut-être que ça leur passe. Voilà, donc s'adapter autant qu'on peut aux gens. Toujours dans cette préparation immédiate, le pape parle du moment personnalisé. Alors, c'est très bien, en même temps, d'avoir des préparations au mariage où on regroupe un certain nombre de couples, et je pense que ça, c'est tout à fait bien, parce qu'on peut aussi donner davantage, quelquefois, de contenu, et puis il y a une interactivité entre eux qui peut être tout à fait bonne. Donc, Là encore, il n'y a pas tout ou rien, c'est, mais d'avoir les deux, d'avoir à la fois ces moments où on peut donner, on peut s'investir davantage. C'est vrai que si on a 30 personnes devant soi, on prépare plus que si on a juste 2 personnes devant soi, c'est pas la même chose. Mais en même temps, le pape dit, c'est important aussi d'avoir des moments personnalisés, parce qu'il y a des difficultés qui concernent un couple qui ne concernent pas un autre. Alors, je vais faire de la pub pour les préparations au mariage de Père Pierre-Marie, mais surtout ne lui ramenez personne, parce qu'il a déjà plein de monde. Mais c'est vrai qu'il prend beaucoup de temps avec chaque couple, je ne sais pas combien, 5, au moins 5 rencontres, je crois. Et avec vraiment du temps. Et du coup, il peut dire, quand il voit un peu comment ça se passe entre eux, et il peut leur dire des choses et les rendre attentifs, après ceux qui prennent la décision de se marier, bien sûr. Mais il peut les rendre attentifs. Ça, c'est possible quand on a une rencontre personnelle. Si devant un groupe, bon, on peut se rendre compte de telle ou telle chose, mais c'est beaucoup moins adapté. Alors du coup, d'avoir les deux aussi... C'est en groupe et c'est un moment plus personnalisé où on peut mettre le doigt sur des difficultés très particulières. Toujours dans la préparation lointaine, il dit que le témoignage des parents, c'est encore la meilleure préparation lointaine. Quand on a vécu dans une famille où les parents s'aimaient, etc., c'est beaucoup plus simple d'imaginer ce que peut être le mariage que quand on a vécu dans une famille divisée, etc. Voilà. Alors, bon, après, on fait comme on peut. Hein. Après, selon, on prend les gens aussi où ils en sont. Mais... Et puis, un petit point, puisque le pape François est toujours sensible à la pastorale populaire... dit, mais pas hésiter à prendre des choses qui sont dans l'air du temps pour s'en servir. Il parle de la Saint-Valentin, par exemple. Alors, chaque année, il réunit des fiancés ou des jeunes couples à la Saint-Valentin à Rome. C'est vrai que la Saint-Valentin, alors c'est un saint, mais bon, après le rapport... voilà. Mais en même temps, il dit, mais voilà, il y a une occasion... Les commerciaux savent s'en servir, mais nous, on a moins d'imagination que les commerciaux pour tirer parti d'événements comme ça. Alors, voilà, il y a des choses qui parlent pour les couples. Ben, profitons-en. N'attendons pas d'inventer des choses nouvelles, mais à partir de ça, ben, essayons. Alors, on voit que dans un certain nombre de diocèses, maintenant, ils proposent des choses pour la Saint-Valentin. Mais il peut y avoir beaucoup d'autres idées, hein, mais... Voilà, et ça se relie plus à la pastorale populaire, se rendre compte de ce qui parle aux gens et puis s'en servir pour, dans le sens du bien. Voilà. Alors, ça, après, donc, le pape parle des fiançailles plus précisément. Alors, comme d'un lieu, au numéro 209, d'un lieu, d'un temps... pour affronter les difficultés. Et quelquefois je dis aux fiancés, pour distinguer, et ils me disent, mais qu'est-ce que ça change avant et après les fiançailles, pourquoi se fiancer? Alors, quelquefois je leur dis, ben, avant, voilà, vous mûrissez, voilà, c'est positif, vous désirez cette personne, etc. Et puis après, donc à ce moment-là, vous voyez que ça vaut la peine d'entreprendre un chemin vraiment avec cette personne. Et à un certain moment, de formaliser cette relation, c'est important. Parce que le moment des fiançailles, ce n'est pas forcément toujours le moment le plus facile. Parce qu'à ce moment-là, une fois que vous vous êtes dit clairement que vous voulez marcher en vue du mariage, vous pouvez apporter aussi les choses difficiles. Parce que il y a déjà un minimum de confiance, déjà vous avez clarifié, vous avez envie de cheminer ensemble, et voilà, et donc ça devient exclusif. C'est un peu dramatique quelquefois, hélas, ça arrive qu'on voit que des fiancés ont des aventures extra pendant le temps de leur fiançailles, alors là, ça peut, ne peut que poser de graves questions pour après. Mais déjà, ouais, déjà vivre une certaine fidélité, une fidélité certaine même, à ce moment-là, parce que si on ne vit pas à ce moment-là, ça risque d'être compliqué après. Et puis après, justement, parce que dans la confiance, on veut aborder les choses, on veut être réaliste, et on ne veut pas tourner autour du pont, on ne veut pas éviter les problèmes comme s'il n'y en avait pas. Alors le temps des fiançailles, ce n'est pas toujours un moment très facile, mais c'est vraiment, comme le dit le pape, il faut affronter le défi de se révéler l'un à l'autre et d'apprendre qui est en réalité l'autre. Il faut donner aux fiancés la possibilité de reconnaître des incompatibilités ou des risques. Attention à ne pas occulter ou relativiser beaucoup de choses. Il faut exprimer les désaccords. Et alors, à ce moment-là, essayer de détecter les signes de danger. Encore une fois, c'est les fiancés qui prendront la décision s'ils poursuivent vers le mariage ou pas, mais ils le feront en connaissance de cause. Après, comme le... Je ne sais plus si c'est... Non, c'est dans le paragraphe suivant où il parle des moyens, mais... Du coup, je trouve ça très intéressant aussi, parce qu'on voit bien quand les gens sont amoureux, ils ont peur de faire de la peine à l'autre. Mais le problème n'est plus pas de faire de la peine, c'est d'être vrai. Bien sûr que ça fera de la peine à l'autre. Alors, il ne faut pas faire souffrir l'autre pour faire souffrir l'autre, c'est évident. Mais si, sous prétexte de faire de la peine à l'autre, on ne dit pas les difficultés qu'on éprouve, ben voilà, les fiançailles, elles ne remplissent pas vraiment leur rôle. Parce que les fiançailles, c'est voir concrètement, voilà, et puis après, est-ce qu'on s'engage ou pas, mais de façon définitive dans le mariage. Mais du coup, c'est important pour ce temps des fiançailles de pouvoir dire les choses qui font difficulté. Si on ne peut pas le dire à ce moment-là, c'est un peu dommage. Alors, donc, ça c'est un premier point dans les fiançailles, voir les difficultés, mais après... Heureusement, on ne s'arrête pas là. C'est mettre en place des moyens pour durer. Du coup, on voit qu'il y a des difficultés, mais comme le dit, on peut contrebalancer le poids de ces fragilités. On va voir si c'est réaliste quand même. Hein, mais, j'aime bien cette manière de voir. Peut-être, y en a un qui ne parle pas du tout, l'autre qui est très volubile. Pourquoi pas mais voir comment... voir concrètement comment ça peut se vivre. Un qui est très vif intellectuellement et l'autre moins, mais voir si c'est... Ça peut marcher, mais il faut en avoir conscience. Et je me rappelle parce qu'il y avait eu le cas dans un couple, et du coup de mettre le doigt là-dessus, mais finalement, cette situation, la fille était très vive et lui, pas trop. Mais du coup, la fille a pu expliquer pourquoi elle le choisissait, lui. Précisément pour ça. Parce qu'avec d'autres, finalement, c'est une relation très intellectuelle, mais finalement, ils n'allaient pas assez en profondeur. Tandis qu'avec ce garçon-là, elles allaient plus en profondeur. Et c'était... Alors, du moment qu'ils en ont conscience et qu'ils... c'est leur vie, hein, mais du coup, de mettre des moyens aussi en place, des difficultés, de voir selon ce qu'on est. Bon, il y a des choses, il faudra y être attentif. Mais je pense à une autre chose. Les agriculteurs habituellement vivent plutôt à la campagne qu'à Paris. Et alors s'il y a une Parisienne qui se marie avec un agriculteur du fin fond de la Picardie, ben voilà, il faut mettre en place des moyens. Alors je pense à un couple comme ça. Ben, madame a sa journée toutes les semaines pour aller se promener à Lille et faire du lèche-vitrine et voir ses copines et voilà. Ils ont mis en place des... Parce que sinon, elle aurait étouffé complètement. Elle était dans une entreprise multinationale, etc. Elle voyageait tout le temps. Bon, elle se retrouve au fin fond de la Picardie. Bon, ça se passe bien, hein. Ça se passe bien, mais ils ont trouvé des moyens. Voilà, il fallait affronter la difficulté, voir que ça puisse durer, tenir dans la durée. Voilà. Alors après, chacun... Je prendre deux, trois exemples, on ne va pas multiplier, mais... Autre élément aussi que dit le pape, toujours dans ses numéros, c'est voir le mariage non pas comme un point d'arrivée, mais comme un point de départ. D'avoir bien conscience que, voilà, on n'est pas arrivé. Mais justement, ça nous lance vers l'avant, le mariage. Le pape encore parle des approches diverses pour soigner le lien. Alors voilà ce qu'il dit. La pastorale prématrimoniale et la pastorale matrimoniale doivent être avant tout une pastorale du lien, par laquelle sont apportés des éléments qui aident tant à faire mûrir l'amour qu'à surpasser les moments durs. Et alors du coup, il y a un apport pluridisciplinaire, si on peut dire comme ça. Bien sûr, il y a des questions doctrinales, mais il y a aussi des questions spirituelles, il y a des parcours pratiques bien concrets, il y a des dimensions psychologiques, voilà. Et il y a une diversité des approches. On le voit bien aussi pour la vie communautaire, dans nos relations entre frères, il y a certainement des choses hautement spirituelles, et voilà, et puis il y a un engagement qu'on fait en vie. Et puis après, il y a des choses très humaines. Hein. Il y en a, selon leur tempérament, bon, peut-être qui n'ont pas beaucoup d'empathie. Voilà, alors du coup, ça crée quand même une difficulté dans les relations, ça. Mais ça, c'est pas autrement spirituel, c'est une dimension totalement humaine, mais il faut le travailler quand même. C'est pas parce que c'est humain qu'il ne faut pas le travailler. Selon un adage qu'on dit, la grâce ne supprime pas la nature, elle la suppose. Donc il faut travailler sur notre nature, sur notre psychologie. Alors un peu plus loin, le pape parle des vieilles blessures qu'il faut, voilà, il faut travailler dessus. Mais on voit bien en communauté, ben, il y a des choses très humaines, il faut aussi les travailler, sinon c'est compliqué. Il n'y a pas que le désir d'aimer Jésus, bien sûr. J'espère qu'il y a ce désir, mais ça doit se concrétiser. Parce que j'aime Jésus, ben je prends aussi des moyens très concrets pour me changer, et puis pour pas, autant qu'on le peut, parce qu'on ne change pas totalement, on a toujours nos faiblesses, et voilà, mais je dois travailler. Si je suis très colérique, ben il faut quand même que je travaille un petit peu. Ça ne veut pas dire ben j'aurai toujours ce tempérament, je ne vais pas le changer, mon tempérament, mais il faut que j'y sois attentif et que je trouve des moyens aussi. Voilà. Alors c'est pluridisciplinaire aussi pour soigner le lien. Il y a des approches variées. Ça peut être simplement, quelquefois, ça peut être même pas psychologique, c'est purement biologique. Il me manque un élément, du coup, ah oui, je pense à un couple. Lui a eu un traitement. Et du coup, du jour au lendemain, il se mettait en colère avec sa femme. Alors qu'habituellement, c'était... Et du coup, bon, elle a dit non, on va changer de traitement. et c'est revenu dans le... Mais quelquefois, c'était même pas psychologique, c'était pas spirituel, c'est simplement qu'il y avait un problème de traitement. Alors, c'est important d'être attentif, pas tout mettre sous un rapport moral. Tout ne se situe pas à un niveau moral. Quelquefois, il se met en colère, mais bon, il y avait des raisons... qui lui échappait. Voilà. Alors, le pape dit aussi de donner pendant ce temps des fiançailles, de donner de bonnes adresses. Grosso modo, c'est ce qu'il dit. Hein. Indiquer des lieux et des personnes, des cabinets ou des familles disponibles auxquelles ils pourront recourir pour chercher de l'aide en cas de difficulté. Hein, on leur donne la trousse à outils en même temps que... Et je pense... Alors, on y reviendra un peu plus loin sur les bonnes adresses. Mais, entre autres, je trouve que c'est intéressant de préparer des gens au mariage aussi, parce que quand il y a un lien un peu plus personnel, je pense à un couple qui est venu me voir il y a un an à peu près. Il n'y en a qu'un des deux qui est venu me voir ce jour-là. Après, ils sont venus tous les deux quand même. Mais... Parce qu'il y avait une grave difficulté qui se posait, mais... Du coup, ils étaient tout démunis. Ce n'était pas des piliers d'église inconditionnels, mais ce jour-là, quand ils se sentent démunis, voilà, ben, ils ont un numéro. Quand on connaît personne d'avant, ben c'est plus compliqué. Mais quand on connaît, quand on a déjà établi une relation, mettons si vous préparez des gens au mariage, ben, ils ont votre numéro de téléphone. C'est pas exclu que s'ils rencontrent des difficultés, ils vous appellent. Ben, on est démunis. Alors c'est pas vous qui allez résoudre forcément la chose, mais à ce moment-là, vous pouvez les écouter déjà. C'est déjà beaucoup pour qu'ils fassent pas de grosses bêtises dans la précipitation. Et puis après les orienter. Et puis, mais ça c'est très précieux quand. Quand déjà au moment de la préparation au mariage, ils ont des contacts, alors après c'est beaucoup plus facile pour eux le jour où il y a eu un moment difficile de prendre contact. Toujours, oh là, alors je m'arrêterai à la fin des fiançailles, hein, après, parce que là j'ai encore 5 minutes. Là, le numéro 212 à 216, c'est plus la préparation du mariage lui-même, la célébration, la réception. Numéro 212, c'est plus même la réception du mariage. Ah, c'est tout un sujet, hein, mais à mon avis, les familles chrétiennes auraient quelque chose à donner à ce niveau-là. Les fiancés, normalement, devraient consacrer leur meilleure force à se préparer comme couple. Mais la préparation matérielle absorbe souvent beaucoup trop d'énergie. Et ça a vraiment des incidences pernicieuses, cette préparation matérielle. Déjà, souvent, ils attendent pour déclarer leur fiançailles parce qu'ils se disent qu'une fois qu'on aura mis dans l'engrenage, il faut choisir la salle, tout ça. Les familles ne pensent plus qu'à ça. Du coup, on n'est pas serein pour cheminer intérieurement. Ce qui est le principal, ce n'est pas la réception, c'est que le couple soit prêt. Et je pense qu'il y a vraiment... C'est compliqué parce qu'on est pris dans une société. Si on nous a invités, on veut rendre l'appareil. Mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose à casser, un témoignage, à dire, mais non, nous, ça sera simple. Ça sera plus simple. Bon, ça... Peut-être d'écrire même avant... d'expliquer pourquoi ça sera simple. C'est pas parce qu'on veut faire des économies... Mais parce qu'il nous semble que l'essentiel, c'est vraiment le couple. Ce n'est pas la réception. Et je pense qu'on a un vrai témoignage à donner. Parce que du coup, il y en a aussi beaucoup qui ne se marient pas parce qu'ils attendent d'avoir des sous pour se marier. Alors que, du coup, les priorités sont inversées. On veut faire une réception qui marquera les esprits et tout ça, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est que le couple tienne. Et... Alors c'est compliqué, hein, mais en même temps je pense qu'il y a quelque chose à faire. À un moment on avait, alors nous c'est plus facile parce que c'est un autre contexte, mais il y avait une tendance au niveau des réceptions pour les vœux des frères ou les ordinations de faire toujours mieux, voilà. Et à un certain moment ça a été un peu bousculé pour dire mais finalement quel est le plus important. Et du coup de faire plutôt une sorte de pique-nique, mais où les invitations sont beaucoup plus ouvertes, où du coup il y a des gens qu'on n'inviterait pas forcément parce que clairement s'il faut beaucoup de sous et il faut restreindre les invitations un minimum, et du coup faire les choses de façon beaucoup plus familiale d'une certaine manière et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. C'est compliqué parce qu'on va vraiment à contre-courant, hein, parce que et du coup, ça suppose pas simplement de faire des économies, hein, encore une fois, mais ça suppose de penser comment on va faire la célébration pour que les gens, finalement, en profitent, que ça aide les couples qui viendront. Que, voilà. Du coup, c'est une autre manière de penser la réception. Et où l'axe n'est pas tant mis sur la qualité matérielle que sur la qualité humaine de la réception. Alors, c'est pas forcément plus facile pour autant. Mais du coup, l'investissement ne se porte pas de la même manière. Et surtout, pendant ce temps-là, les fiancés, ils peuvent discerner sans être un peu le couteau sous la gorge. Et voilà, il faut prendre des décisions. Et du coup, ils ne sont pas sereins. Ils ne peuvent pas cheminer sereinement pendant ce temps-là. Alors ça vaut pour la réception. Ça vaut aussi pour la célébration du mariage. Alors où le pape invite justement à approfondir tous les gestes de la célébration du mariage, à vivre en profondeur ce qu'ils vont vivre pendant la messe. Souvent, on conseille aux fiancés de s'extraire de tous les préparatifs une journée avant, voire un peu, mais dans les jours qui précèdent, s'extraire de tous les préparatifs pour être vraiment présent à Dieu et puis présent, enfin, avoir conscience. Sinon, ils sont pris dans l'engrenage et voilà, c'est pour vraiment vivre les choses avec profondeur. Alors, il y a un rapport entre le... on pourrait faire plusieurs comparaisons entre l'Eucharistie et le mariage, le sacrement de l'Eucharistie et le sacrement du mariage. Un des éléments de la comparaison, c'est de dire que l'Eucharistie, donc le prêtre consacre les espèces pendant la messe, et puis après, il garde les hosties dans le tabernacle. Ça veut dire que Jésus est toujours présent à la fin de la messe. Mais pareil, le sacrement du mariage, ce n'est pas donné juste pour le jour du mariage, bien entendu. C'est quelque chose qui est donné, c'est qu'un point de départ, encore une fois, le sacrement du mariage. C'est une grâce qui est donnée, mais qui est toujours présente tant que les conjoints sont vivants. Donc, voilà, et qui est là, la fontaine est là, donc il faut aller y puiser. Mais du coup, d'en avoir bien conscience que voilà, ça ne fait que commencer le jour du mariage. Et qu'à partir de ce moment-là, comme c'est un simple pain qu'on présente pour l'Eucharistie, mais voilà, c'est un amour humain qui est confié à Dieu au moment du mariage, mais à partir de ce moment-là, c'est plus simplement un amour humain, c'est l'amour de Dieu qui unit les conjoints. Et du coup, d'en avoir conscience qu'au-delà... alors, ça ne se voit pas extérieurement, la tête de la mariée n'aura peut-être pas beaucoup changé avant ou après le mariage, mais dans leur amour mutuel, il y a quelque chose qui aura profondément changé. Là, on le vit dans la foi, mais parce que Dieu est vraiment présent au cœur de leur amour. D'une façon puissante, pas simplement déjà au moment des fiançailles, ça peut l'être d'une certaine manière, bien sûr, pour des chrétiens, mais voilà. Et pour terminer sur cette préparation au mariage, donc le pape parle de la prière dans la vie conjugale au numéro 216. Il ne serait pas bon qu'ils arrivent au mariage sans avoir prié ensemble. Prier l'un pour l'autre, en sollicitant l'aide de Dieu, pour être fidèle et généreux, lui demandant ensemble ce qu'il attend d'eux, y compris en consacrant leur amour auprès d'une statue de Marie. Donc, bon, même pour des vieux équipiers des équipes de Notre-Dame, quelquefois ils ont du mal à prier ensemble. Voilà. Mais voilà, alors il y a différentes manières de prier ensemble, mais voilà, la prière aussi qui apprend ça. Voilà, je crois que je vais m'en arrêter là et puis on passera aux premières années de la vie conjugale après, en début d'après-midi. Ça va comme ça, Marie-Pierre ?